Et on parle, Claude, forcément des grèves et des manifestations.
Dont l'ampleur secoue la presse au plus profond du pays. Plus de 10 000 dans les rues de Tours, la Nouvelle République. Ils étaient 8 000 à Dijon, le bien public. Les Ardennes mobilisées, l'Ardennais. Mobilisation à taux plein, en Bigorre, la République des Pyrénées. Mobilisation historique à Épinal, Vosges matin. Et du local au global, le ton est inchangé. La France résiste à la vision de Macron. Titre le Financial Times qui montre à Marseille un manifestant grimé en joker, fumigène orange à la main. Un journal de raison libérale, l'opinion se divise. Son patron, Nicolas Bétou, veut croire que pour le gouvernement, le mur n'est pas infranchissable. Comprenez que la réforme peut passer. Mais en dessous du patron, CAC dessine drôlement un Édouard Philippe qui dit à Emmanuel Macron, soit on touche à la retraite des Français plus tard, soit on avance la tienne à 2022. Mais la force des foules et les doutes des puissants ne sont ni toute la vie ni toute la presse, et quand on la lit de plus près, se dessinent dans nos journaux des individus forts de leurs magnifiques vertus. Prenez le temps de cheminer dans le magazine des Échos avec Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe français qu'on écoute sur cette planète et qui, dans l'analyse méticuleuse de nos contradictions, comprend notre triple crise, la dérégulation économique globale, les explosions sociales que provoquent les inégalités et le déni du changement climatique sont liés dans nos impasses à repenser le monde et la politique. Il faudrait alors, face à l'ampleur de la tâche, passer en revue toutes nos compétences, toutes nos habitudes, pour faire le tri de ce qu'il faut changer, pratiquer en somme une révolution du détail. Sont-ils donc des révolutionnaires, ces entrepreneurs, dans la voie du Nord, qui ont fait la bascule du vélo? Un brasseur, une coiffeuse à domicile livrent leur bière ou leur talent sur les vélos cargo que dans son atelier Paco me répare. Ils ont l'air heureux. Heureux également dans le télégramme Jean-René Mahé, qui quadragénaire s'est arraché à la honte d'être un illettré et qui à son tour aide ses semblables au secret. Pour sa force intérieure, il a été nommé le Breton de l'année. Vous prendrez aussi le temps ce matin de lire La sainteté des hommes, d'un homme pardon dont la vie a fait son aventure cette semaine. Il s'appelait Franz Jägerstätter, il était autrichien et catholique et avait ressenti comme une trahison le ralliement politique de son église à Hitler après l'annexion du pays. En 1943, il refusa d'aller combattre et fut décapité. Son histoire est racontée dans le dernier film de Terrence Malick, Une vie cachée, et la vie alors nous raconte Malick, artiste d'une nature magnifique et inquiétante qui reflète nos âmes, et la vie parle aussi de nos âmes, de la conscience. Franz Jägerstätter ne prétendait pas changer le monde, ni influer sur le cours de la guerre, mais il ne voulait pas participer au mal, il ne répondait que de lui, mais donc pour nous tous. Le Dauphiné libéré rencontre un chef indien d'Amazonie passé par l'ONU à Genève et qui veut nous convaincre d'habiter le monde sans plus le violenter. Le Figaro s'émeut d'une église du Maine-et-Loire dont les vitraux ont été dessinés par Tahar Ben Jelloun, écrivain et peintre de culture musulmane qui nous dit que l'art sauvera le monde. Le magazine de La Croix nous compte la belle saga des vitraux de Conques que Soulages réalisa, et La Croix quotidien me dévoile des croyants qui prient avec leur corps. Ils dansent et se cachent parfois pour ne pas heurter les fidèles. Ils sont les héritiers du roi David des Écritures qui dansait devant l'Arche d'Alliance.
Et on parle, Claude, d'une femme scandaleuse.
Dont l'évocation en juin dernier par le grand journal américain The Atlantic a bouleversé l'Angleterre. L'article s'intitulait « Shakespeare est-il une femme ?» et racontait Emilia Bassano, une Italienne qui aurait inspiré, et plus encore, des œuvres de Shakespeare. Elle était d'ascendance juive, convertie au catholicisme, et on lui devrait le plaidoyer de Shylock dans Le Marchand de Venise. Le Monde reprend le dossier et les tourments anglais. Dans France Football se bat une autre femme tout aussi dérangeante, Mégane Rapinoe, la plus grande joueuse de football du monde, qui en appelle à la conscience des vedettes masculines de son sport pour qu'ils l'aident à changer le monde, eux qui n'ont connu, dit-elle, que l'adulation. Mais ils ont, dit-elle, des amis, des sœurs, des potes noirs ou gays, ils doivent savoir que des tas de gens souffrent de discrimination. Et France Football rêve, imaginez l'impact si Lionel Messi quittait le terrain au premier cri de singe. Dans son foot, hélas, un grand footballeur répond de facto par le cynisme des pouvoirs. Gérald Piqué, vedette de Barcelone auquel il a apporté un sponsor maillot, homme d'affaires qui a repris la Coupe Davis, s'extasie de la puissance que lui donnent à lui footballeur les réseaux sociaux qui permettent de contrôler le message sans ces fichus journalistes qui posent les mauvaises questions. Piqué, je dois dire, est très beau. Dans l'équipe, deux boxeurs côte à côte, l'un sublime et sculpté, Anthony Joshua, l'autre rond comme Poupon, Andy Ruiz. Ruiz au maillot, au pendentif latino, a pris à Joshua ses ceintures de champion du monde des lourds. La revanche a lieu demain en Arabie Saoudite, dont l'équipe me dit comment, après le Qatar et les Émirats, elle prend le sport pour décorer son image. Elle en a les moyens. Son entreprise pétrolière Aramco bat le record mondial des introductions en bourse. Joshua va toucher une prime de match de 80 millions, ne parle pas politique. La conscience comme l'argent sont inégalement partagés.
Et encore une femme puissant pour finir, Claude.
Qui, elle, ne fera jamais scandale, mais dont la joie nonagénaire rend suave même le portrait vachard que lui offre le magazine du Monde. Lynn Renault, qui aima tant les présidents et leurs familles, qui savait comme Chirac qu'il n'est pas raisonnable de mourir pour des idées. Lynn Renault, qui aujourd'hui appelle tous les jours Brigitte Macron et parfois, elle mange des frites. Mais Lynn Renault, que l'humanité célèbre aussi ce matin comme l'incarnation de la précarité des personnes âgées, pour un téléfilm diffusé sur Arte, elle a tout. Libération est émouvant, qui raconte les mots des fans de Johnny Hallyday, 2 ans après. Mais l'Indépendant est caustique, qui me raconte qu'un homme vient d'être confirmé coupable en appel pour avoir, en 2010, tiré sur des contradicteurs dans un camp de gens du voyage, après une dispute concernant une chanson de Johnny.
Merci Claude Ascolovitch.